Il m'a semblé, après notre partage de midi et demi, que ce serait peut-être bien de reprendre un peu le travail sur la concentration. Qu'est-ce que c'est que la concentration? Parce que dans une retraite, nous cherchons toujours à équilibrer. Comment équilibrer l'effort, le non-effort, les différents outils à notre disposition, et aussi ces deux manières de nous lier à l'instant, une manière très focalisée qui permet un grand repos de la conscience à terme, et une manière ouverte qui reçoit les expériences et qui les illumine à la lumière de la conscience. Et ce qui est purificateur, c'est un peu ce dont je parlais le premier soir, c'est que lorsque l'expérience désagréable émerge, j'ai appris, le moi a appris, que c'est absolument inutile de se tendre pour ne pas vouloir, de chercher ailleurs, de prétendre ou de résister, que si c'est possible d'ouvrir, d'abord, ça fait du bien. Et puis, même si ça fait mal. Et ensuite, c'est ce qui nous est demandé de faire. Et peu à peu, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup plus de joie, d'une certaine manière, à faire ce travail d'ouverture qu'à aller chercher la bonne expérience. Chercher la bonne expérience, c'est ce que nous faisons sans cesse dans nos vies. Et nous sommes quand même là. Et si nous sommes là, c'est qu'il y a bien une quête de quelque chose de plus profondément libérateur. La concentration, elle est limitée par ce qu'on appelle les obstacles. Les obstacles, ce sont des forces énergétiques qui envahissent la conscience. C'est tout à fait différent de bhava tanha ou vibhava tanha, ce besoin d'existence, j'ai besoin d'exister, mais je suis parfaitement consciente. Mon corps est là, la concentration est là. N'empêche que l'expérience est extrêmement douloureuse, parce que ce retournement où je ne mets plus moi en priorité, c'est un gros travail. C'est pas juste quelques retraites comme ça de temps en temps. Plusieurs incarnations, vous avez le temps. Et donc ces obstacles, ils sont complètement liés à comment je me lie au maintenant. Et en nous libérant des obstacles, nous nous nourrissons de ces états de concentration dont je vais parler en lien aux obstacles. Le premier, c'est la somnolence, ou la somnolence physique, ou ces sortes de rêves éveillés qui font que l'expérience n'est pas trop désagréable. Ça passe assez vite, même des fois je suis surprise, la cloche sonne, je ne l'ai pas tellement attendue. Mais toujours est-il que la conscience est endormie, et puis elle rêve à des mondes extérieurs, plus ou moins agréable, plus ou moins vague, pas très déterminé. Le Bouddha a comparé cette manière de ne pas voir à une prison, parce que aucun intérêt n'est possible au niveau conscience. La conscience est vraiment atrophiée. Et La somnolence, c'est un état de conscience qui demande cet effort initial qui fait que je sors du sommeil et je reviens. Je reviens là. Je sors du sommeil et je reviens. Et je reviens. Et je reviens. Et cet effort initial, il est relativement pénible, surtout si je lutte. C'est toujours la même chose avec l'expérience douloureuse. Plus je la prends personnellement, plus je lutte, plus elle me fait souffrir. Si je m'intéresse à l'expérience, c'est comment quand je m'endors. C'est vraiment comment. La même chose qu'on peut s'intéresser à la respiration, c'est vraiment comment quand elle commence cette respiration. Elle commence exactement où ? Souvent on a l'habitude, je respire, inspire, expire. Un peu plus de détails. Comment c'est ? Et vous pouvez le faire avec la somnolence. Plutôt que d'avoir ce vague sentiment qu'il ne faudrait pas, ce que tous les obstacles créent d'une certaine manière. Ok, il ne faudrait pas, d'accord, mais tu aurais dit que c'est là. Alors quoi ? Alors, je m'intéresse. Je ne m'intéresse pas seulement à comment ça vient. Ah, mais ça me prend par surprise. Quand je reviens là, je me dis, mais j'ai rien vu comment c'est parti. Et c'est un très bon travail de faire ça. Et quand je me réveille, c'est comment quand je me réveille ? Oups ! Ah ouais, donc quand je dormais, c'était comme ça. Ah ouais. Et là, j'ai un moment de pleine présence. Mais évidemment, si je reste toujours dans le bien et le mal, dans ce qu'il faudrait, ce qu'il ne faudrait pas, je m'empêche de m'intéresser à l'instant tel qu'il est. La somnolence, le Bouddha l'a comparée à une eau boueuse. Nous sommes dans une espèce de brouillard. Et dans nos vies, nous avons pas mal de moments de brouillard, quand c'est vraiment confus. Le deuxième des obstacles, lorsque nous avons pratiqué cet effort initial et que la somnolence commence à lâcher, alors le doute peut venir. Le doute vient d'abord parce que cet aller et retour est pénible. Toujours partir, revenir, j'ai l'impression que je fais tout faux. Ça crée une sorte de mal-être ou de malaise. Et alors le doute émerge, l'esprit compare, il tourne en rond, il ne sait pas où il faudrait aller, il est soit dans une forme de découragement, je ne suis pas capable, ma pratique n'est pas comme il faudrait, ou bien une sorte de réactivité, ah je sais, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Et il y a une sorte de... d'intensité, quelque chose paraît assez clair, mais c'est très lié au mieux et au moins bien, au sens du bien et du mal, au sens du moi, au devoir. Si le maintenant est absent avec la somnolence, le maintenant, c'est pas trop où il est avec le doute. Le Bouddha a comparé ça à une traversée du désert. On se sent dans une sorte de désert, sans savoir où vraiment aller. Perdu, un peu perdu. Et alors, lorsque nous apprenons à voir le doute, l'effort change. Parce que j'ai pu voir le doute, l'effort devient soutenu, ce qu'on appelle vichara en pali. Ça ne fait pas toujours que partir et revenir, ça reste un moment, ça reste. Et c'est agréable parce que nous pouvons un peu lâcher l'effort. L'image, c'est aussi une eau qui paraît claire, parce que souvent, quand il y a du doute, c'est pas boueux. Hein, le mental est très. Il fonctionne très bien, le mental. Il cherche, voyez, quoi faire, ou bien comme je suis pas bien, comme c'est. Mais la racine est dans l'eau boueuse, la racine est dans la terre, un nénuphar qui croit être clair, mais qui ne l'est pas. Et lorsque cet effort soutenu est possible, nous accédons à ce qu'on appelle piti. Ça, c'est le côté positif de l'aversion. L'aversion qui est un obstacle à la concentration parce que quelque chose nous gêne vraiment. Ça gêne tellement que je ne peux pas être là. Je ne peux pas être là avec une douleur physique, je ne peux pas être là avec trop de pensées, je ne peux pas être là parce que c'est trop long, je ne peux pas être là parce que j'en ai marre. Le Bouddha a comparé ça à une maladie. Nous luttons contre la maladie. Et avec l'aversion, il y a ce sentiment qu'il faut toujours lutter. Le maintenant est horrible. Et alors quand nous lâchons l'aversion, c'est-à-dire quand nous l'avons suffisamment acceptée pour qu'elle lâche, c'est plutôt comme ça, quand nous avons admis que ça émerge, que c'est impermanent, que ça ne m'appartient pas, que je ne fais rien de faux, qu'il n'y a pas une erreur quelque part, que c'est un obstacle. J'accepte, c'est un obstacle, oui, c'est vrai. Mais je surveille le lien que je crée à l'obstacle. Je ne le haïs pas. Hein, parce qu'on sait bien que ça n'est jamais par la haine que la transformation arrive, mais toujours par l'amour. Ok, il y a un obstacle. Alors l'aversion tranquillement lâche, j'ai plus tellement cette envie d'être ailleurs autrement, d'avoir autre chose. Et ce qui émerge, c'est cette qualité de joie spirituelle. Comme l'objet devient moins important, alors je peux laisser émerger les choses et les voir. Et elles arrivent, elles passent, et ça devient une danse. Parce qu'avec l'aversion, je maintiens, je retiens. Ah, un mal au dos, il n'y a plus que le mal au dos. Il n'y a plus que ça, un mal au dos. Ou bien des pensées, toujours des pensées. Et d'une certaine manière, c'est moi qui crée. C'est moi qui crée l'aversion. Donc avec cette joie spirituelle, nous avons un intérêt joyeux pour l'instant. Au lieu que l'instant soit horrible, l'instant, il est juste waouh. Et il arrive et il passe. Il n'y a rien que je retiens. Ça arrive et ça passe. Il y a un intérêt pour tous ces objets de conscience. Et c'est bienfaisant, ça, ça. Le moi, il aime. Même le moi, il aime. L'image pour l'aversion, c'est une eau tempétueuse. Cette réactivité, cette dureté. Et puis, lorsque nous avons rencontrer l'aversion, nous rencontrons aussi l'agitation. L'agitation, c'est cette eau qui est complètement agitée par un vent qui la rend frémissante. L'envahissement de l'esprit par l'activité mentale nous empêche d'être là. Et le Bouddha donne l'image de l'esclavage. Nous sommes comme en esclavage. Nous sommes esclaves de l'agitation. Le maintenant est totalement envahi et nous n'avons au fond aucune liberté. Ça pense. Et c'est merveilleux de rencontrer ça. Comment ça pense, ça pense, ça pense. Je me détends avec. Ah, ça pense, ça pense. Et ce que je fais, c'est que j'essaye de laisser cette activité mentale se développer, se déployer, se être. Et je pose un peu d'attention dans le corps. Et alors, je suis un peu là, je reconnais l'agitation plutôt que d'avoir une vague aversion contre elle, ce qui ne fait que la renforcer. Et quand elle lâche, la qualité qui émerge, c'est ce qu'on appelle sukha, c'est ce bonheur d'être là. Les objets de conscience ont moins d'importance dans ce qu'on appelle piti, dans cet intérêt ou cette joie spirituelle. Les objets de conscience ont beaucoup d'importance. Je les vois qui émergent et passent. Avec la qualité de sukha, c'est plus large, plus dégagé. La conscience est posée et c'est bienfaisant, c'est bénéfique. C'est un vrai bonheur. Il est anicca, il est impermanent, il n'est pas moi. Mais n'empêche que dans l'instant, il est, et nous pouvons le reconnaître, apprécier, ressentir, ne pas nous attacher. Et puis, avec cette liberté que donne Sukha vient Ekagata, c'est une forme d'unification, de sentiment d'appartenance. Le corps est posé, le silence et l'espace sont là. Nous sommes dans un contenant bienfaisant. Et le corps, l'attention ne lâche plus, l'attention est totalement posé dans le corps, mais pas seulement dans le corps, aussi dans l'espace, le silence. Et ça, c'est lorsque nous avons appris à rencontrer le désir dans l'exercice de la méditation. Le désir, c'est l'esprit qui veut toujours avoir quelque chose, qui veut toujours avoir plus, qui le maintenant n'est pas assez. Je veux des choses, et des choses qui sont liées au sens. Je veux une bonne sensation dans le corps. Je veux un thé. Je veux, je sais pas ce que vous voulez. On peut vouloir beaucoup de choses. Je veux des sons, des bons sons. Quelquefois, il y a des musiques qui viennent. Le Bouddha compare le désir à une dette. L'esprit n'est pas tranquille, c'est comme il devait, comme s'il devait toujours vouloir quelque chose pour rembourser une dette. L'eau est colorée. Et comme pour tout, tant que c'est un obstacle à la concentration, c'est que nous sommes fascinés par l'objet du désir. Nous croyons vraiment que si nous avons ça, alors j'y serai. Et comme pour tous les obstacles, de voir que c'est l'énergie du désir qui est là, et juste ça, et de sentir, ouah, c'est pas grave, on est d'accord, puisque je peux pas la sourire. Mais c'est exprès, exprès, qu'on se met dans ces situations. Pour mieux voir, pour fortifier la conscience. Alors le désir lâche est quelque chose, ça pèse sérieusement. Le mental, peut-être qu'il y a quelques pensées qui émergent, mais voilà, ne nous gêne pas du tout, parce que la conscience n'est pas envahie. Et il y a cette qualité d'unification, avec un grand plaisir du corps. Il y a pas mal de sens du moi encore. Mais enfin, la concentration est posée. Et alors, ce qui émerge, ce sont les facteurs de l'éveil, c'est-à-dire qu'au lieu que la pensée soit toujours au service de quelque chose de mieux que ce que j'ai, ou de ne pas avoir ce que j'ai, ou d'être empêché de voir, ou totalement envahi, l'investigation peut venir. Et l'investigation, c'est une pensée sage qui puise dans des outils de sagesse, et qui permettent de voir des choses plus utilisables, je dirais, pour que nous nous libérions dans l'instant. C'est une grande aide de voir l'impermanence. C'est impermanent. De voir justement les obstacles comme des obstacles et non pas comme mon problème. De voir il y a dukkha, c'est pas le drame, c'est qu'il y a juste dukkha. De sentir quand il y a l'intention sage, chanda, je veux la libération, ou quand c'est cet attachement à mon bien-être. Donc ce que nous cultivons, c'est la détermination à être là, avec le corps, tout simple. Et quand un obstacle émerge, nous arrêtons de vouloir le supprimer. Vouloir supprimer l'obstacle, c'est lui donner du pouvoir. Ce qui est paradoxal, c'est que nous voulons être éveillés, et c'est beau qu'il y ait cette aspiration, mais ça n'est pas possible de vouloir être éveillé et de ne pas vouloir souffrir. C'est juste deux choses qui ne vont pas ensemble. Nous nous agrippons aux obstacles, mais nous nous agrippons aussi aux facteurs de l'éveil lorsqu'il y a la joie, ou le bonheur, ou l'unification. Et chaque fois que le Bouddha parle, là j'ai parlé que du premier Vipassana Jhana, il y en a quatre. Chaque fois que le Bouddha parle de ces jhanas, à la fin il dit mais la sensation de plaisir qui émergea de l'exercice n'envahit pas son esprit et ne s'agrippa pas. c'est juste donné comme une grâce et puis ça passe. L'esprit ne fait que contempler. Avec la douleur physique, il y a aussi ce défi. Voir comment la douleur physique peut devenir aversion, mais elle peut aussi devenir sens du moi, une espèce d'obstination qui fait que je crois que je dois absolument la laisser être. C'est pas comme ça. L'art de la méditation est plus subtil. Nous créons un moi tellement facilement. Un moi qui doit faire bien. Donc si vous avez mal quelque part, personne, qui est-ce qui vous dit de ne pas bouger? C'est intéressant. Qui c'est qui me dit que je dois pas bouger? C'est qui? Qui c'est qui me dit comment je dois faire? Est-ce que je me sens libre? Alors, il ne s'agit pas d'aller dans la complaisance, il s'agit de respecter le cadre, les autres, mais à l'intérieur, nous pouvons être complètement libres. Je vous lis Ajahn Tejaniya qui dit « Ne pas accepter les obstacles va seulement les renforcer. Les obstacles empêchent vos progrès en méditation et vous empêchent de vivre votre vie pleinement. Ils vous empêchent aussi de trouver la vraie paix et la liberté. Ne méprisez pas les obstacles, ils vont se moquer de vous. » Ce sont des énergies très puissantes liées à l'aveuglement et qui sont utiles. En fait, c'est très utile pour nous apprendre à voir. Et derrière ces obstacles, il y a des choses beaucoup plus profondes qui lâchent beaucoup plus tard dans l'exercice de la méditation. Derrière l'agitation, c'est l'inquiétude existentielle. L'esprit s'agite sous la force de l'inquiétude et il devient confus. On voit bien ça avec le Covid, c'est frappant. Derrière l'aversion, il y a ces limites du karma, nos tendances. Accepter que nous ne pouvons pas plus que plus. Quelquefois, nous voyons très bien ce que nous pourrions faire pour être libres, mais il y a une limite karmique qui est là. Le désir est puissant, le désir d'essence, besoin d'existence. Et d'une certaine manière, lorsque nous investiguons vraiment lorsque nous apprenons à voir nos schémas et à connaître mieux le qui suis-je, nous nous rendons compte que c'est nous qui créons le monde. Alors nous pouvons arrêter d'essayer d'être ce que nous voulons parce que ça ne marche pas du tout. Et ouvrir le cœur à ce qui est. Juste maintenant, qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a l'intérêt pour l'expérience? Et l'intérêt peut être là même si l'expérience n'est pas géniale. Est-ce que vous sentez une énergie, un élan vers la libération? Est-ce que c'est calme? que la conscience est ouverte et réceptive. Est-ce qu'il y a des préférences ou est-ce qu'il y a... Est-ce que je suis sans préférence juste maintenant? Et ça, c'est une qualité d'investigation. Libre d'obstacles. Qui mène à la concentration. Il n'y a pas besoin que l'esprit soit sans préférence. Il y a besoin de questionner et de voir. Est-ce qu'il y a des préférences, oui ou non? Il n'y a pas besoin que l'esprit soit calme, juste voir. Est-ce qu'il y a un élan? Quelquefois la réponse est oui, quelquefois la question crée l'élan ou il n'y en a point. Est-ce qu'il y a l'intérêt ou la joie? Rien à créer. Où est-ce que la conscience est appelée? Faites ce qui est bienfaisant pour vous. Faites confiance à ce qui vous fait du bien, plutôt à ce que vous devriez faire. Sentez-vous libre.